Le sermon du Père Patrick, samedi 14 septembre. Voilà.
Selon Saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, mais que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous, donc, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu.
Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Examine pour voir s'il est parfait. Je crois qu'aucun d'entre nous n'exprimera de la difficulté à admettre qu'il n'est pas parfait. Surtout quand il vient d'entendre une parole pareille. Aimer ses ennemis, c'est pas facile. Hein? Comment peut-on aimer ses ennemis? J'ai été floué par un client et il faut que je l'aime. J'ai été trahi par quelqu'un qui s'est tout donné et il faut que je l'aime. C'est terrible ça. À supposer que ce soit possible, Jésus dit, il va encore plus loin, il dit, soyez parfait. Comme votre Père Céleste est parfait. Alors là, on comprend tout de suite que c'est pas dans le rhume, parce que le Père, la perfection du Père, n'est-ce pas? Quelle est la perfection du Père? La première personne de la Très Sainte Trinité. Qu'est-ce qu'elle a qui fait qu'elle est parfaite? Le Père. Qu'est-ce qui fait le Père? Il. C'est Dieu, quoi. Dieu, avant la création, a ceci de parfait, qu'il contemple Dieu. Et sa contemplation est si profonde, et il est si entièrement englouti dans cette contemplation. Vous voyez, c'est notre expérience. Il engendre un verbe. Et Jésus nous demande d'engendrer le verbe. Vous voyez ça? Et il faut évidemment pour cela être un, j'allais dire, ou bien totalement en dehors de la création. Oui, parce que si je suis entièrement à l'intérieur de la terre, engendré avec la même perfection, si je puis dire, que le Père. Vous pouvez courir. Mais et pourtant, on sait bien que c'est pas ça, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne veut pas qu'on soit désincarné. Hein. Ah. Ou bien totalement englouti dans la terre. Si Jésus passe aussi, il faut aimer ses êtres amis. Et puis, cette espèce de... Il y a quelqu'un qui l'a fait, hein. La mère du Verbe. Akipéo, vous savez. Je ne sais plus dans quel pays d'Afrique c'est Akipéo. Hein? Au Rwanda. Elle se présente au Rwanda en disant, je suis... la mère du Verbe. C'est extraordinaire. Je suis la mère du Verbe. Jésus est mort sur la croix en pardonnant ses ennemis. Ça, je crois que pour nous, c'est facile. Ça fait longtemps que nous le savons. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de permettre que dans la création qu'il a façonnée avec le Père et l'Esprit Saint, que dans la création, il y ait une source de lui-même. Il a constitué, à travers cette mort du calvaire, une source de lui-même. Cette source, c'est l'Immaculée Conception. Source, c'est ce que dit le cantique des cantiques, quand l'épouse se trouve face à son époux qui dort. Elle reconnaît le lieu de sa conception, l'Immaculée. Et c'est vrai, Jésus a conçu à la croix cette grâce plénière qui fait que nous pouvons être la mère du Verbe. Il n'y a pas qu'elle, hein. Nous devons engendrer le Verbe. C'est prodigieux, ça. Et voyez bien que quand Jésus engendre cette maternité divine, il le fait à travers la contradiction. Si nous sommes confrontés à la contradiction, voyez ce que ça veut dire, la contradiction. Surtout quand la contradiction devient très forte, insurmontable. On a l'impression que Dieu nous a totalement abandonnés. C'est le signe qui nous appelle à être la matrice du Verbe. Et c'est là que nous pouvons lire sur la montagne du Verbe, la partie la plus élevée du Verbe. Le Verbe est sur la montagne, il est dans cette contemplation du Père qui l'engendre, il est sur la montagne. Alors à ce moment-là, quand on est sur cette montagne extraordinaire, surtout quand c'est à travers la contradiction, voyez bien, alors il y a la béatitude. Et à travers cette contradiction, il faut que les béatitudes prennent toute leur force. Et quand je contemple celui qui est à côté de moi, mon ennemi, est signe de contradiction, je peux contempler les béatitudes. Bienheureux les humiliés, les broyés par l'humiliation, les pauvres, les dépouillés en esprit, désarmés. C'est eux les fils de Dieu. Bienheureux. Les sources de pacification. C'est eux les enfants du Père. Bienheureux. Bienheureux les affligés, les
eux qui portent la consolation éternelle de Dieu. Bienheureux les consolateurs, ils seront comblés, bienheureux les persécutés pour la justice, pour la grâce, bienheureux ils sont rassasiés, bienheureux les assoiffés, les désemparés intérieurs, bienheureux les doux. Pas de révolte, s'il vous plaît. Pas de révolte. Ils posséderont la terre entière. Dès que le signe de contradiction est là, la béatitude de ceux qui engendrent, la mère souffre, et c'est à travers la douleur que la femme, dans sa souffrance, met au monde celui qu'elle doit enfanter, comme dit le livre de la Genèse. Et on doit enfanter le Verbe. C'est très grand. Il faut accepter d'avance, si la croix n'est pas encore plantée directement sur nous, il faut l'accepter avant que ça n'arrive. Parce que si ça arrive, vous n'avez pas accepté avant. J'ai un peu peur. Si vous l'avez accepté avant, si nous l'acceptons avant, que ça n'arrive, ce sera doux, ce sera consolant, ce sera pacifiant. Est-ce que c'est Jésus ? Il faut accepter par avance la contradiction. Et si la contradiction est là, alors là, on jubile. N'est-ce pas ? C'est la jubilation. C'est extraordinaire. Parce que ça veut dire que la perfection nous a choisis pour servir en présence de Dieu. C'est extraordinaire, ça, ce passage, c'est extraordinaire, franchement extraordinaire. Alors, ça ne veut pas dire que... Seigneur, je te supplie vite une contradiction. N'allez pas trop vite, attendez que le Seigneur vous fortifie bien. Vous êtes bien fortifié. Croyez-moi, il vaut mieux être bien fortifié avant. Bon, de toute façon, même si ça n'arrive pas, quelquefois, cette contradiction n'est pas forcément dure psychologiquement ou physiquement. Ce n'est pas forcément une douleur. Quand ça nous arrive, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, je crois que le carême nous apprend ça, c'est qu'il faut simplement ne pas regarder cette contradiction en face. Vous voyez, si vous avez une tentation, si vous avez un ennemi, si vous le regardez en face, comment pouvez-vous l'aimer ? Si vous avez une tentation, vous êtes mordu par la tentation, si vous la regardez en face, comment pouvez-vous lutter ? C'est ce que Ève a fait comme erreur. Elle n'aurait pas dû discuter. Et l'erreur qu'elle a fait, c'est qu'elle a discuté. On ne discute pas avec la contradiction. Il n'y a que la tentation. Il faut simplement rentrer, je crois, dans un espèce de silence. Vous voyez ? Il faut être dans ce qu'on appelle quelquefois l'attention. Vous voyez ? Attention. Un ennemi, là. Attention. Il faut être dans l'attention. Comment est-ce qu'on fait pour être dans l'attention ? L'attention, c'est une disposition du cœur, si vous voulez. Déjà, ce que je vous dis là est vrai déjà au point de vue psychologique et humain, hein, et naturel. Donc, utilisons-le aussi. Vous voyez ? Nous allons à l'école ou à l'université, ou quand nous faisons un travail sur quel qu'il soit, manuel ou autre, hein, ou intellectuel, lorsqu'on assiste à une conférence, il faut, même si ça n'a rien à voir avec la vie divine, avec la vie spirituelle, c'est des trucs techniques et tout, ce sont des extraordinaires grâces de Dieu pour cultiver et enraciner cette force de l'attention. Être très attentif.
on va à l'école, à l'université, il faut faire son travail avec le plus d'attention possible. Si vous passez un examen, par exemple, eh bien, vous faites passer un examen. Mon Dieu, est-ce que je vais réussir mon examen, etc. Vous voyez ? Regardez la difficulté. Et du coup, vous êtes terrorisé. Il ne faut surtout pas le faire. Il faut être dans une attitude d'attention. C'est-à-dire que vous laissez un certain vide en vous, une disponibilité intérieure d'accueil. Lorsque j'étais un petit peu terrorisé il y a quelques jours pour faire le sermon de... Mais c'est vrai aussi pour la mécanique auto et tout ça, hein. Pour faire le sermon pour les funérailles de ma grand-mère, parce que j'ai une famille terrible. Ça, c'est, si vous voulez décorcher vif, vous rentrez dans ma famille. Et vous prêchez le Christ, c'est ça. À ce moment-là, on vous met au pilori. J'étais un peu terroriste, alors je dis... ma grand-mère est décédée, je l'ai enterrée il y a 3 ou 4 jours. Et elle a laissé... 15 mystères vivant sur la terre, elle a mis 15 enfants, n'est-ce pas? Et puis 153 descendants vivants. Pétant. Hein? Ça pose. Hein? Elle est morte le premier samedi du mois, Saint-Joseph. Vous voyez, je suis content. Hein? Mais c'est moi qui ai présidé ces funérailles glorieuses. C'est extraordinaire. J'étais un peu terrorisé. Alors j'étais ma mère. Elle m'a montré un petit mot, elle dit, tiens, elle a ouvert son portefeuille, elle dit ça. Elle avait 2 phrases, elle dit, elle est marquée, laissez-vous faire, ne vous préoccupez pas. Laissez le Saint-Esprit faire, c'est lui qui fera tout. C'est tout simple. Hein. Voyez. Alors je dis, bon, ça va. Je fais comme ça. C'est ça l'attention. Avant, tu vois, on passe un examen. Toi, t'as fait l'expérience cette fois. On passe un examen, on laisse le vide. On n'essaie pas de garder très vivant le point de vue de tout ce qu'on a appris. Électriquement, on se vide. On se laisse faire. Et puis après, on répond à la question, tranquillement. C'est ça l'attention. On est disponible à ce qui va nous être demandé. Et on fait tranquillement ce qu'on a à faire. Mais en s'y mettant tout entier, mais sans s'angoisser, en laissant à votre esprit toute sa liberté. Vous voyez, ça s'apprend. Ça. Il suffit simplement d'apprendre quand on suit un cours, quand on fait un devoir, au lieu d'essayer de faire le truc parfait en fonction de vous-même. Vous êtes avec votre mari, vous êtes avec vos enfants pour l'éducation. Ne vous crispez pas. Laissez faire. Donnez-vous et laissez faire. Mais donnez-vous tout entier. Et laissez faire. C'est la tension, ça. Vous voyez ça? Vous êtes attentif. Et dès que la contradiction est là, rentrez dans le point de vue de la tension. C'est l'appel. C'est le signe que vous êtes choisi pour qu'il n'y ait plus que cet engendrement mystérieux qui fait qu'on dépasse le point de vue de ce qu'on aime et de ce qu'on déteste. On est au-dessus de ça. Et donc, on est dans la perfection, une contemplation qui est éternelle. Parce que dès qu'on dépasse le point de vue de l'amour et le point de vue de la haine, dès qu'on dépasse le point de vue de la grâce et de la croix, on est forcément dans un amour supérieur. Rien en ce monde n'est supérieur à l'amour. Donc si vous dépassez le point de vue de l'amour et la contradiction de l'amour, c'est que vous êtes dans l'éternité. Laissez donc cet engendrement du Verbe s'opérer à travers vous. Vous avez été choisi pour que le Verbe de Dieu saisisse le monde entier à travers cette contradiction. Et laissez-le faire. Soyez heureux de ça. Laissez la place. Pour vous expliquer encore peut-être une autre chose, hier j'ai eu un petit enfant, je l'ai vu, je dis, qu'est-ce que tu fais pour le carême? Elle dit,
intérieur en train d'administrer une bande destinée. Alors, dis, qu'est-ce que tu dis? Oh, c'est des romains, espagnols, machin, truc, machin. Oh, qu'est-ce que tu fais pour le carême? Oh, oh. Ben, je me... peut-être qu'on se prive un peu. Pas du prive beaucoup, c'est pas... Je dis, tu vois, il ne s'agit pas de se priver. Il s'agit de faire de la place. Et je crois que je me suis dit, quand je lui parlais, en même temps que je lui parlais, j'ai compris quelque chose. Je me suis dit, il faudrait que je le dise demain, alors, à la messe. C'est pourquoi j'y viens. Je m'excuse, ça fait un peu plus long, mais ça fait rien. Alors, je dis, bon, je dis, tu vois, il faut faire de la place, parce qu'on a trop de graisse, d'accord, dans notre estomac. T'as entendu? On en supprime. Bon, c'est pas ce que Jésus demande. On n'a pas seulement l'estomac. On a aussi l'intelligence, le cœur, la mémoire, l'imagination. Mais par exemple, on a tellement de choses dans la mémoire, par exemple. Prends l'exemple de la mémoire. Dans notre mémoire, ce que tu peux faire dans ta mémoire, tu te rappelles de plein de trucs, tu sais des poésies, tu sais plein de choses. Tu apprends à l'école des tas d'histoires, tout ça, il faut que tu apprennes par cœur les formules de chimie, tout ça. Bon, c'est bien, mais tu vois, pour le carême, ce que Jésus demande, c'est que tu t'allèges dans ta mémoire pour pouvoir apprendre par cœur la parole de Dieu. C'est bien, excellent carême, d'apprendre par cœur 3 passages de la parole de Dieu. Je lui ai fait promettre, je veux que tu m'apprennes par cœur. Je crois que c'est bien que tu fasses ça, tu feras un très bon carême, parce que ce moment-là, tu délestes des trucs inutiles, et dans ta mémoire... Du coup, il y a de la place pour la parole de Dieu. Apprends donc par cœur un psaume entier. Apprends par cœur, tu choisiras. Apprends par cœur l'histoire d'une guérison de Jésus. Apprends par cœur une parabole. Si tu fais ça, tu auras fait un très bon carême. Du côté de la mémoire. Du côté de la mémoire. Et la mémoire, c'est une puissance de l'imaginaire, c'est une puissance de vie animale en nous, la mémoire. C'est pas spirituel, la mémoire. Vous voyez, le carême consiste précisément à mettre tout l'aspect animal et corporel au service de la génération du Verbe.